Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à la librairie Terra Nova. Ce soir, on est très contente d'accueillir Vincent Romani et Laurent pour présenter le recueil, l'anthologie Politiser l'enfance. Donc, c'est un livre qui vient d'être publié aux éditions Burnout, dont Laurent est le représentant ici, éditeur chez Burnout. Et Vincent Romani, donc, qui a dirigé l'ouvrage, qui est prof aux Beaux-Arts de Lyon. Et donc, tous les deux, ils vont nous présenter le livre avant un temps d'échange avec vous. Bonne rencontre.
Bonsoir. Merci déjà à toutes et tous d'être venus ce soir. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je vais quand même parler, dire quelques lignes sur ce qu'est la maison d'édition Burnout. Donc c'est une maison d'édition associative qui existe depuis 4 ans. On a commencé à avoir une pratique un peu de l'édition en reliant nos livres à la main, en les imprimant nous-mêmes et en faisant toutes les étapes au fur et à mesure de ce que c'est que le travail éditorial. On a commencé du coup aux Beaux-Arts. On est toutes et tous étudiants et étudiante des Beaux-Arts de Lyon et une autre personne des Beaux-Arts de Cergy. Et là, ça fait depuis septembre de l'année 2022 qu'on est diffusé. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à vraiment rentrer dans le dur de ce que c'était l'édition. Et on a sorti quelques livres depuis ce moment-là. Et du coup, on est heureux aujourd'hui parce que c'est un projet qui dure depuis quelques temps. Ce livre Politiser l'enfance qui était sorti une première fois sous une forme, une pré-anthologie, mais je laisserai Vincent vous raconter un peu plus en détail. Et on est très heureux de voir enfin la forme qui a mis du temps à apparaître parce que ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans qu'on travaille sur ce recueil de textes. Et voilà, on est heureux de vous le présenter ce soir et je vais laisser Vincent vous parler un peu du contexte de la création de ce livre, de la production de ce livre, et on va commencer par là.
Ah oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être là, c'est toujours très impressionnant de rencontre, de voir qu'il y a plein de monde. Et puis à chaque fois, je me rappelle qu'il faut dire burn-out, alors que ça fait des mois que je dis burn-out, donc ça me fait un peu une piqûre de rappel. Je suis effectivement l'éditeur, au sens éditeur, de l'ouvrage. C'est un ouvrage dont l'histoire a été quand même très compliquée, qui a commencé par des histoires dures, donc je vais en reparler, je vais vous expliquer le contexte rapidement, mais il faut qu'on en passe par là, parce que c'est ça qui fait qu'on est arrivé à cette publication. Moi je suis prof au Beaux-Arts de Lyon, j'avais le plaisir d'avoir Laurent et ses collègues éditoristes comme étudiants, étudiantes il y a quelques années, et je travaille depuis pas mal d'années sur la question des aires de jeu, c'est un peu ma névrose personnelle. Et en 2020-2021, l'année universitaire 2020-2021, c'était la fin du confinement, j'ai fait des cours sur la question des rapports entre art et enfance dans l'art contemporain. Donc au début de l'année, j'ai fait une liste d'artistes contemporains qui travaillaient la question de l'enfance. Et puis, j'ai construit mes cours comme ça. L'idée, c'était de savoir voilà, comment est-ce que les artistes représentent l'enfance, quelle image de l'enfance y elle donne, par opposition à une représentation de l'enfance comme primitivité au début du XXe siècle, ou de l'enfance comme destruction à la fin du XXe siècle. Et puis, a éclaté l'affaire Claude Lévesque, donc cet artiste contemporain très important qui... avait à l'époque une énorme reconnaissance institutionnelle et dans le monde de l'art, et dont un article dans Le Monde publié en janvier 2021 nous apprenait qu'il était accusé de pédocriminalité par Laurent Follon, un autre artiste contemporain. Alors il se trouve que moi, au début des années 2000, je travaillais dans un centre d'art contemporain qui avait fait un projet avec Claude Lévesque. Alors je ne l'avais pas approché parce que j'étais un emploi jeune. Et puis je me suis rappelé qu'effectivement, à un moment, il avait quand même demandé enfin c'était un projet qui se faisait avec des enfants qui étaient en hôpital psychiatrique, et il avait quand même demandé à la directrice de faire parvenir un courrier à la direction de l'hôpital où il voulait devenir le tuteur légal d'un des enfants. C'est une histoire que j'avais entendue, voilà, expliquée, dite dans des couloirs du centre d'art où je travaillais. Et puis, bah voilà, comme beaucoup, ça m'est sorti de la tête. Et puis, quelques semaines avant que l'article ne soit publié dans Le Monde, la journaliste m'avait téléphoné pour me demander si j'avais été en contact avec lui, si j'avais vu des enfants. Elle m'a envoyé des photos d'enfants, me demandant si je les avais croisés. Moi, je ne l'avais jamais rencontré. Donc, j'ai pas pu l'aider du tout. Et je m'étais rendu compte à ce moment-là qu'effectivement, moi, j'avais pas prévu de faire un cours sur Claude Lévesque, alors que je le savais moi-même que c'était il faisait partie des artistes en France qui abordaient, dont l'œuvre abordait la question de l'enfance. Je ne pouvais pas faire un cours de but en blanc sur les représentations dans l'œuvre de Claude Lévesque, sachant qu'il était accusé de pédocriminalité et qu'on avait toutes les bonnes raisons de croire de croire Laurent Follon. Pendant le confinement, j'avais découvert le travail de Tal Peter Bromerx, doctorant à l'ENS en philosophie politique, qui consacrait une thèse de philosophie politique sur la question de la domination des enfants par les adultes comme angle mort des philosophies politiques. Tal avait publié un certain nombre d'articles des articles qui sont lumineux, qui m'avaient énormément aidé dans ma recherche doctorale. J'étais moi-même en train de rédiger ma thèse à ce moment-là. Et j'ai contacté Tal et je lui ai proposé de venir faire une conférence à l'école dans le cadre de mon cours pour traiter la question, pour faire une conférence sur ses recherches, à partir de laquelle moi je pourrais, dans le cours suivant, aborder la question de Claude Lévesque, puisque je savais que dans ses recherches, elle abordait la question de des arguments pro-pédophiles qui ont pu être avancés dans la fin des années 80, au début des années, fin des années 70, début des années 80, comme une opportunité d'émancipation des enfants. Et que justement c'est une question politique Tal a fait une conférence qui a été enregistrée, donc qui est sur la chaîne YouTube de l'école des Beaux-Arts de Lyon. Donc si vous allez dans l'année universitaire 2020-2021, Tal est intervenu, c'était pendant le confinement, donc en fait ça a été enregistré et diffusé immédiatement, et Tal a fait une formidable, très très belle conférence qui s'intitule Politiser l'enfance. Le titre m'a énormément marqué parce que moi j'ai fait des études de philosophie avant de me tourner vers l'esthétique et je suis toujours gêné, j'ai toujours été gêné, je continue à être toujours gêné ou interrogé par l'invocation du terme politique dans l'art. C'est quelque chose qui est... Je dis pas que c'est pas justifié, au contraire c'est très justifié, mais je trouve que parfois c'est invoqué de façon pas forcément suffisamment étayé, enfin ça me satisfait pas toujours. Alors ça veut pas dire que je saurais comment il faut travailler la question, mais je trouve que le terme est un peu trop facilement invoqué. Alors je le sais pour avoir écrit des communiqués de presse qui veulent rien dire, et puis quand on met politique dedans, ça marche toujours quand même, hein. Ça plaît beaucoup aux collectionneurs, aux collectionneuses, et tout d'un coup j'avais dans cette conférence ce syntagme politiser l'enfance très très fort, et auquel Tal donnait un sens très précis, qui est que politiser l'enfance, c'est mettre en évidence les rapports de pouvoir qui façonnent la catégorie et qui créent cette catégorie et qui fait qu'on l'aperçoit en tant que telle, comme catégorie spécifique. Donc voilà, ça c'était la conférence. Quelques mois après, je suis invité à faire une petite exposition chez Laurel Parker, une galerie, un atelier galerie spécialiste en façonnage stage en métier d'art, qui a un petit espace d'exposition et qui me dit, Vincent, j'aimerais bien que tu fasses une édition, parce que son métier, c'est quand même de produire des objets faits à la main. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une anthologie. Dans la vie, j'aime bien faire des anthologies, en fait. Je me dis, pourquoi pas faire une anthologie qui s'appellerait Politiser l'enfance, et pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour faire une première version de cette anthologie, de ce recueil de textes qui s'appellerait Politiser l'enfance, et puis ça pourrait être l'occasion d'en poser les premiers jalons. Alors du coup, j'ai proposé à Tal, qui a accepté, qui a fait un texte très très beau, Conjurer l'oubli. J'ai demandé à Pierre Zaoui l'autorisation de rééditer un texte qu'il avait écrit en 2009 dans la revue Vacarme, un texte qui est très très beau, que j'ai toujours en mémoire, j'ai toujours eu en mémoire pendant des années. Et puis bon, ben voilà, j'ai pondu un texte sur les aires de jeu, quoi, parce que c'est ce qui était le plus facile sur le coup. Et puis il y a quand même une dimension politique sur les aires de jeu, mine de rien. L'ouvrage a été tiré en 50 exemplaires par Laurel Parker, des exemplaires très très beaux faits à la main, mais moi ça me satisfaisait pas que ça existe en 50 exemplaires. L'idée, c'était que l'ouvrage continue à exister sous forme de PDF, et c'est là que j'ai contacté Burnout en leur disant, voilà, il y a ce projet qu'on m'invite à faire une publication, je voudrais que ça continue à exister et que ça en reste pas aux 50 exemplaires. La plupart des publications de Burnout étant téléchargeables sur leur site internet, elles sont devenues coéditées avec Laurel Parker et moi, et la publication est téléchargeable sur le site internet. C'était en septembre, fin septembre, début octobre 2021. Et le jour du vernissage, Tal est venu voir l'exposition, je lui ai donné des exemplaires, et puis je lui ai proposé qu'on fasse la publication ensemble. Et ça, c'était vraiment. J'ai rencontré Tal trois fois en tout et pour tout. C'est évidemment la dernière fois que je l'ai vu. Et je lui ai proposé, juste quand on se sépare, de dire est-ce que ça dirait qu'on augmente l'anthologie ensemble. Mais on n'en a pas plus discuté, en fait. Tal devait partir en Allemagne pour finir de rédiger sa thèse, notamment la troisième partie de sa thèse. Moi, j'avais aussi à finir ma thèse. Donc l'idée, c'était on finit nos thèses respectives. Et puis on en reparle genre dans un an, quoi. Et Metal avait dit ok, mais on n'a absolument pas parlé de contenu éditorial. Et j'ai appris trois semaines plus tard que Tal avait mis fin à ses jours et que Tal avait été victime d'inceste dans son enfance. Alors oui, Tal venait de publier un roman, Outrage, aux éditions Blast. Avait publié un roman précédent sous un pseudonyme Chloé Dune, dont je ne me rappelle plus la maison d'édition sur le coup. Et a participé à l'ouvrage La culture de l'inceste, qui a été publié un an plus tard, aux éditions du Seuil. Le choc passé de parce qu'on n'était pas proche, s'est posé pour nous très vite la question de est-ce qu'on le fait, qu'est-ce qu'on fait. On s'est décidé qu'il fallait faire l'ouvrage quand même. On n'avait jamais discuté. Alors moi, dans mon idée, mais que j'avais pas même pu partager avec Tal, ça aurait été de proposer à Tal, dont j'imaginais bien qu'il avait des textes sur lesquels je savais qu'il avait des textes de référence sur lesquels il travaillait, en particulier Shulamit Firestone, qui était indisponible, enfin qui est toujours indisponible. J'imaginais bien qu'il avait un certain nombre de textes. Donc je m'étais dit que voilà, Tal traiterait la question de art et politique. Enfin, enfance et politique, pardon, et que moi, ce serait l'occasion d'aller creuser enfance et politique dans l'art. Et du coup, il a fallu faire autrement, il a fallu faire sans, mais il a fallu faire quand même. Donc en fait, l'ouvrage, on s'y est mis, ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille beaucoup, donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes où on a pensé qu'on allait faire de premières versions courtes. Enfin, ça a été quand même assez, assez compliqué. Là, je dois souligner, je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir Burnout comme éditeur, comme éditorice. C'est une des expériences les plus fabuleuses que j'ai eues de collaboration avec une maison d'édition. pas juste parce qu'il est là, hein, mais voilà. Donc du coup, l'ouvrage s'est fait de façon, ben, on va dire cas. Donc un premier sur la question du choix des textes, il y a eu un premier cercle de textes qui étaient les références pour Tal. Donc par exemple, Shulamit Firestone, le chapitre qui s'intitule pour l'abolition de l'enfance, qui est un des chapitres de la dialectique du sexe, qui a été publié en 1972 en France, jamais réédité. Ce chapitre a été édité par les éditions Tain Party, qu'on peut télécharger sur leur site internet, mais il n'était pas disponible sinon sous une autre forme. On a contacté Jenny Kitzinger, une sociologue qui était citée plusieurs fois par Tal dans ses recherches. Benoît Lapouge et Jean-Luc Pinard-Legris qui avait publié un ouvrage dans les années 80 aux éditions du Seuil qui s'intitule L'enfant et le pédéraste, une réfutation des arguments pro-pédophiles à fin des années 70, début des années 80. Et puis, je crois que j'oublie un ou deux autres textes qui étaient des références pour Tal. Et puis, on a contacté Guylain Leroy, sociologue de l'enfance, qui enseigne à Rennes et qui menait avec Tal un séminaire sur la question de la domination des enfants par les adultes. On a réussi à contacter Ned Burgess, qui est l'ayant droit de Christiane Rochefort, pour publier un extrait de Les enfants d'abord, qui était publié en 1976. Et puis, pour le reste, on a cherché des auteurs, des auteuristes qui abordaient la question de l'enfance sans préconception. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit « il faudrait faire ça », on n'a pas cherché à faire le livre qu'on aurait fait avec Tal. On s'est dit « voilà, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et l'idée, quand je contactais chacun des auteurs ou des autrices ou des autoristes, c'était d'une certaine manière leur poser la question, même si je ne l'ai pas formulé comme ça, mais rétrospectivement on peut expliquer le livre comme ça, c'était « quel sens vous donnez à politiser l'enfance ?» en fonction de vos compétences, de votre champ de recherche. Voilà, donc en fait on a contacté un certain nombre d'auteurs et d'autrices, donc tout le monde ne nous a pas répondu. Des personnes nous ont répondu que leur enfance était un champ de bataille et qu'elles ne voulaient pas se replonger dessus, une autrice en particulier assez connue, mais voilà. Donc on savait tout à fait qu'effectivement on touche un sujet qui est très très compliqué, très douloureux, très difficile, très sujet à débat, à discussion. Et puis, il a été question de les organiser. Donc tous ces textes, en fait, on n'avait pas vraiment de thème général. Il n'y a pas une méta-théorie qui expliquerait la question. On n'aborde pas non plus la question de la domination de l'enfance. Hein, c'est pas l'objet de la publication. On a très peu de textes, puisque la question a pu nous être posée, où les enfants prennent la parole, même si on a un chapitre qui s'appelle « Prendre la parole », parce que c'est quand même la question, c'est de savoir comment les adultes construisent et reconstruisent cette catégorie. On a contacté des personnes qui étaient soit des universitaires ou des personnes, des auteurs, des autrices. Par exemple, on est très content d'avoir un texte d'Adèle Tincelin, à qui j'ai dit voilà, est-ce que tu aurais. Alors je me rappelle plus. Yann m'a expliqué que je lui avais dit ce serait bien un texte sur le prisme de la transparentalité, de l'enfance, un texte sur l'enfance au prisme de la transparentalité. Et Adèle a pris le prisme au sens strict d'un diamant, donc shine bright like a diamond. Le texte est absolument magnifique. Donc voilà, ça a été abordé par des auteurs et des autrices qui abordaient la question ou qui se sont posé la question de savoir comment Yale pourrait envisager la question de l'enfance du point de vue de leur domaine. Je pense en particulier à Irène Pereira, spécialiste de la pensée critique, qui se pose la question de savoir pourquoi précisément la pensée critique d'auteurs comme Fréré ou Belloux ne parle pas directement de l'enfance. Donc là, le texte est absolument passionnant parce que Irène Pereira explique comment on peut faire des liens entre cette pensée et la question de l'enfance, sachant que ce n'est pas l'objet, par exemple, des recherches de Paolo Freire. On a un certain nombre de... Donc voilà. Et du coup, au final, on a... organisé l'ouvrage en un certain nombre de parties thématiques. Et il n'y a pas de... Enfin, la chose importante aussi, c'est que même si moi, je suis prof d'esthétique, ce n'est pas un ouvrage du point de vue de l'art. Je ne voulais surtout pas que ce soit un ouvrage de ce qu'on appelle l'art comme paradigme de connaissance, cette idée selon laquelle... le monde de l'art, les artistes pourraient produire une connaissance qui pourrait se rapprocher, voire concurrencer des recherches académiques. C'est pas non plus un ouvrage de recherche académique, puisque même s'il y a un certain nombre de sociologues de l'enfance ou de personnes qui enseignent à l'université qui ont produit des textes, parce qu'il n'y a pas un thème, enfin si c'était un ouvrage de sociologie de l'enfance, ce serait une question très précise qui donnerait l'objet d'un colloque. Là, c'est absolument pas le but de l'ouvrage, donc on a tout à fait conscience du caractère complètement bigarré, si ce n'est bancal, de la publication. Mais voilà, c'est ce que je sais faire, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait en tout cas. Et ça a été... les articles ont été... Les contributions ont été réunies dans un certain nombre de thématiques, voilà, qui à nouveau n'étaient pas prévues... par exemple, on s'est pas dit il faut traiter telle question. Alors je suis tombé un moment sur par hasard sur l'ouvrage de Arnaud Théier qui a publié sa thèse aux éditions O30 sur la question de l'enfance sous le néolibéralisme. Voilà, je m'étais pas dit il aurait fallu un texte sur le néolibéralisme. Même si quand j'ai découvert son ouvrage, je l'ai immédiatement contacté parce que je me suis dit mais effectivement, on a un auteur qui peut nous dire voilà comment est-ce que la pensée néolibérale, comment est-ce que les consignes de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, façonnent la catégorie des enfants et comment est-ce que ça devient. Donc ça c'est l'objet de sa thèse et du coup il nous a fait un texte qui n'est pas un résumé de sa thèse sur la question de l'enfant potentiel. Par exemple, comment est-ce que finalement le néolibéralisme promeut l'idée d'un enfant créateur, inventif, avec un potentiel à développer, etc. Donc voilà. Donc on a un certain nombre de chapitres dans lesquels on a réuni les textes. Et voilà. Je crois que j'ai réussi encore à faire une phrase de 20 minutes. Mais, on a un texte qu'a écrit Laurent. Et ça, peut-être, c'est l'occasion, parce qu'on n'en a pas trop reparlé. Donc là, ça devient l'occasion, puisque Laurent n'est pas seulement l'éditeur de l'ouvrage, c'est aussi un contributeur de l'ouvrage. Et de même qu'on ne s'était pas dit, voilà, il faut absolument traiter cette question de l'enfant dans le monde du sport, dans le monde du sport professionnel. Parce que, par exemple, on a un très beau texte de Mayelen Berasategui sur la question de l'enfant salarié dans des comédies musicales, avec une étude comparative sur ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et effectivement, ça, c'est une question de comment est-ce que cet univers professionnel façonne une catégorie. Et, mais là, du coup, je vais passer le micro à Laurent. Comment est-ce que toi, t'es arrivé à te dire finalement, tiens, mais ce que j'ai vécu ou mon enfance, je pourrais en parler pour produire un texte qui rentre dans cet ouvrage et qui soit aussi une façon de répondre à la question politiser l'enfance, à toi aussi.
C'est la première fois que je parle de ce texte, en tout cas que je réponds à des questions dessus. En fait, c'est au contact de la somme de textes que du coup on a toutes et tous travaillé, et notamment celui d'Arnaud Théier sur la question de l'enfant potentiel et de l'enfant sous le néolibéralisme, mais aussi celui de Mayelen Berasategui. Je me suis dit qu'en fait, il y avait peut-être aussi un enjeu à parler d'une expérience que j'ai vécue jusqu'à récemment, parce que j'ai fait du sport de haut niveau, on dirait, jusqu'à 26 ans, du patinage artistique, et du coup en parallèle des études aux Beaux-Arts puis de l'édition. Et je me suis dit qu'il y a eu des scandales assez récemment sur ces questions-là. Et je me disais que ça pourrait être intéressant dans un texte qui raconterait ça, de faire un retour sur ce qu'était cette expérience un peu particulière, et notamment la question des relations de domination adulte-enfant dans ces espaces-là, dans l'espace du sport de haut niveau en général, et de se dire que c'était un paradigme particulier qui était en fait la chambre d'écho de questions plus générales sur la question de la domination des enfants par les adultes.
Quand on a échangé sur ton texte, il y avait la question de... Il y avait la question de... Le texte est arrivé dans une forme assez définitive. Enfin, je crois que tu as fait plusieurs versions. Tu as eu plusieurs versions, mais moi, tu m'as présenté une version qui est quasiment celle qui est dans l'ouvrage. Et moi, ce que je voulais te demander, c'était dans quelle mesure il y avait cette tentation, mais où est-ce qu'elle n'a pas été là de théoriser en termes de domination ? Parce qu'en fait, c'est un récit où tu expliques ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu, mais tu en reviens... Enfin, voilà, c'est un récit à la première personne.
Alors, la tentation, elle a toujours été là de théoriser. Surtout, c'est que c'est ce que je préfère faire, je crois. en tout cas, prendre de la distance au départ. Mais je me disais que la manière la plus juste de faire ce récit-là, c'était vraiment de l'écrire sous une forme poétique. Et, poétique, entre guillemets, mais en tout cas, l'expliquer à la façon... d'une autofiction un peu comme on en trouve. Et c'est parce que aussi je suis quand même un lecteur de personnes comme ça qui font de l'autofiction. Je suis extrêmement touché par l'écriture de Maggie Nelson ou de David Wojnarowicz, par exemple, qui m'a beaucoup touché à une certaine période. Et je me suis dit qu'il fallait se ressaisir de ça. Et à l'image du livre où on s'est dit... effectivement, il n'y a pas de hiérarchie dans les manières avec lesquelles on explique le monde et on l'appréhende. La manière théorique d'expliquer quelque chose n'est pas supérieure à une manière de s'auto-fictionner et de raconter des choses. Et en ce sens, j'avais l'impression que la parole était un peu plus personnelle si je le prenais par ce prisme-là, qui est celui de la première personne. Et je pense qu'il y a aussi, il y avait aussi un enjeu pour moi face à des questions qui sont un peu compliquées, qui serait par exemple la question de la volonté de séduction de l'enfant sur des adultes, ou en tout cas dans le sport de haut niveau, parce que ça existe. Et de le raconter avec un regard extérieur, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué que d'essayer de se raconter à soi-même ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, en tout cas ce qu'on a essayé d'exercer sur des corps adultes.
De même qu'à l'inverse, le texte, enfin c'est, il n'y a pas de théorie, mais en fait la théorie affleure vraiment tout au long du texte, où on comprend tout à fait les injonctions contradictoires auxquelles les enfants sont soumis. Rester un ou une enfant pour pouvoir être compétiteur, compétitrice, mais se soumettre à une discipline d'adulte. Et que du coup, il y a toutes ces injonctions contradictoires qui sont dans le texte.
Le texte, il est parti d'une phrase que je me répétais en rigolant quand on travaillait sur Politique d'enfance, qui était que mon enfance s'est arrêtée à 26 ans. Et qu'en fait, ayant fait quand même ça pendant très longtemps, et j'ai été maintenu... dans une position d'enfant, entre guillemets, où on subvenait à mes besoins, où j'étais délesté de toute question administrative, etc. Et où j'avais peu de choix sur la manière avec laquelle je voulais mener ma vie, entre guillemets. Et cette situation de dépendance à l'institution sportive, elle m'a amené à questionner, dans le livre en tout cas, ce que Christiane Rochefort appelle l'institution de l'enfance. Elle dit l'enfance est une institution et en ce sens c'est pas un âge délimité de 0 à 18 ans, c'est pas ce qu'on appelle la minorité de façon légale, et que effectivement l'enfance elle pouvait durer toute une vie et là en l'occurrence c'était jusqu'à 26 ans. C'est un texte qui s'appelle Kiss and Cry. Le monde de mon enfance, c'est le monde du patinage artistique. Des lames vissées à des bottines trop serrées, une surface glacée, de la musique, de la lumière, beaucoup, puis plus tard, des clubs, des fédérations, trop de drapeaux et de juges. À 6 ans, ma mère me met sur la glace pour la première fois pour calmer mon hyperactivité. Le sport sera un exutoire. C'est la séance publique de la patinoire de Colmar. Je crois qu'il est aux alentours de 18h. La musique bruyante fait vibrer la piste. Dans le bâtiment de béton aux allures brutalistes résonnent tous les succès musicaux français du moment. La compile de la Starac 1, Jennifer, Garou, les L5, Laurie et Shakira. Il fait déjà nuit et seuls les projecteurs colorés éclairent celles et ceux qui,
en dessinant de grands cercles, se bousculent sur la surface glissante. Je me tiens à la barrière pour « ne pas tomber », une injonction permanente qui pendant 20 ans sera ma ligne d'horizon. Surtout, ne pas tomber, rester debout, répéter chaque jour avant et pendant les entraînements, le soir, une fois par semaine, puis deux fois par jour, 6 jours sur 7. Chute égale un point en moins, c'est-à-dire ta note baisse, c'est-à-dire tu ne seras pas premier, c'est-à-dire tu chutes dans le classement, c'est-à-dire tu risques de finir dernier, tu as raté, tu es un raté. Je reste debout et ma performance c'est moi et surtout il faut sourire et je montre mes dents. Sur la glace, souriant, je reste debout. J'attire l'attention parce que je tiens debout d'une manière plutôt belle et quand je tombe, je me relève très vite pour que personne ne me voie. Ma mère m'inscrit au SPARC, club de patinage artistique de Colmar. Dans le groupe d'enfants qui s'élancent sur la glace, je me distingue. J'aime que les coachs m'aiment et j'aime rentrer à la maison pour dire à ma mère que je suis resté debout. Elle se rapproche des coachs et tous finissent par s'apprécier. Premier objectif. Elle, ma mère, doit faire de moi un bon garçon. C'est-à-dire sage, disposé à l'écoute, attentif, rigoureux, concentré. Deuxième objectif, qui dépend forcément du premier. Elle, les coachs, doivent faire de moi un bon patineur. C'est-à-dire déterminé, discipliné, prêt à l'abnégation, assidu, fiable. Au centre, silencieux, je me réjouis de toute cette attention et me fantasme champion du monde. Ma mère sacrifie tout à sa tâche, elle me soutient inconditionnellement. Quand on me propose de rejoindre le groupe des compétiteurices et que mon activité s'intensifie, elle aménage sa vie en fonction. Tous les matins, elle se lève à 4h45 pour me réveiller à 5h et m'amener à l'entraînement, de 6h à 7h30. Elle m'accompagne à l'école avant d'aller au travail, puis revient me chercher pour aller au second entraînement, de midi à 13h30, puis elle me dépose à nouveau à l'école avant de retourner au travail. Enfin, le lundi, le mercredi et le jeudi, elle m'amène à la séance de off-ice, de 18h à 19h. En dehors de circuit, mon père, toutes les deux semaines, le week-end, il me demande « Pourquoi tu fais ça ? Ta mère te force. » Puis il dit « C'est un sport de PD. » Me questionne « Tu es PD. » Ma performance, c'est moi et je crois que j'aime les derniers conseils du coach avant de me présenter, que j'aime entendre mon nom vibrer sur la scène, le nom de mon père sur ma scène, que j'aime les yeux rivés vers moi seul sur la glace avant que la musique ne démarre, quand je pense, à chaque fois, qu'il n'y aura pas de moment plus important dans ma vie, que je pourrais tout aussi bien mourir après, moi je veux mourir sur scène, sourire aux lèvres et surtout sans tomber, que j'aime les projecteurs qui éclairent ma tunique moulante et pailletée, elle brille de mille feux lorsque je bouge sur la musique qui m'accompagne. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est le moment d'après. Lorsque la musique s'arrête, que je ne suis pas tombé et que les gens applaudissent. Que je salue les juges en souriant. Je cherche le sourire de ma mère quelque part dans les gradins et le visage de mon père que je regarde d'un air vengeur, puis celui de mon coach, fier de son élève. Il me prend dans les bras et m'accompagne au Kiss and Cry. C'est là qu'on attend les résultats. Déjà l'air victorieux pour forcer ce destin maintenant entre les mains de celles et ceux qui me jugent et m'attribuent une note. Dans le Kiss and Cry, un canapé ou des chaises en plastique, un paquet de mouchoirs pas trop loin et en fond, un décor aux couleurs de la ville qui accueille la compétition. Je m'assois à côté de mon coach, en face de la caméra, encore à bout de souffle. On ne se parle pas trop fort pour que le peu de spectateuristes devant la retransmission n'entendent pas ce qu'on se dit. Des retours sur la performance et quand ça se passe mal, des engueulades silencieuses. La caméra toujours présente enregistre chacune des émotions. Kiss and cry but smile. Pour que personne ne voie rien de mon angoisse dans l'attente des notes. Kiss and cry, but smile and keep quiet. Je me demande, est-ce que c'est la dernière ? Pendant que mon coach me chuchote son plan infaillible sur les 4 prochaines années pour améliorer mes performances. Je montre mes dents. Ma performance, c'est moi, et je fais semblant de l'écouter pendant que je déroule le fil de la question. Et si c'était la dernière ? Cette question me tient debout sur la scène, le jugement tombe, et nous nous prenons dans les bras, ou pas ? Je saute une partie du texte et je vais directement à la fin. À partir de ce moment-là, et jusqu'à l'âge de 26 ans, j'apprends à revoir mes ambitions à la baisse. Je me contente. Une place de 3e catégorie, junior 2e division, me procure autant de plaisir que mes vieux titres de champion de France catégorie avenir 1ère division. La joie d'une participation au championnat du monde ressemble à celle que je m'imaginais ressentir en étant champion du monde. ni très bon, ni très mauvais, je suis parfaitement moyen. Mais pendant quelques minutes, à chaque compétition, les yeux d'un nombre croissant de spectateurs sont rivés sur ma performance, sur moi. Et même moyen, il y a toujours cette scène sur laquelle je peux continuer d'espérer et cet instant d'avant, celui qui succède à l'invocation de mon nom et de mon prénom dans les enceintes de la patinoire, qui précède le début de la musique, pendant lequel je vibre parce que tout est possible. Puis plus tard, aux côtés d'une partenaire en nous convainquant que nous sommes les plus beaux belles, les meilleurs, parce qu'on nous a dit que nous l'étions. Demeure cette question qui me tient debout jusqu'au Kiss and Cry, que je retrouve toujours pareil, toujours différent, et si c'était la dernière, après. Et même s'il ne devait plus y avoir d'espoir, au regard de ce corps qui n'est plus celui d'un enfant, cela ne changerait rien aux espérances, et je ne montre plus mes dents, je mords l'intérieur de mes joues, creuse mon visage.
Une chose à préciser avant qu'on passe aux questions, les amis IES de Thal travaillent à une publication d'une sélection de ses écrits qui paraîtra aux éditions Blast. Voilà, on voulait le rappeler.
Merci beaucoup pour la lecture et pour la présentation. Maintenant, la parole est à vous si vous avez envie de poser des questions. Je peux faire passer le micro qui a un très très long câble. Voilà. Est-ce que quelqu'une a une question ? Moi, j'en ai une, mais je veux pas. Ouais, c'est une question un peu dans le texte de Thal, du coup, qui s'appelle Conjurer l'oubli. Il parle de. Enfin, le texte s'ouvre. Enfin, la question, c'est comment on sort d'une enfance soit idéalisée, soit. Enfin, des fantasmes de l'enfance, quoi, et des chimères qu'on construit autour de ça. Et le geste politique qu'il propose pour sortir de ça, c'est d'essayer de se remémorer ce qu'ont été la condition politique de nos enfances. Et il parle d'ateliers d'écriture. Et du coup, je me suis demandé si soit lui, soit vous, vous avez pu organiser des ateliers de la sorte. Entre adultes, avec des enfants, enfin je sais pas s'il y a quelque chose qui a été, si vous avez des expériences autour de ça, ce qui a marché ou pas.
En fait on l'a pas fait, et moi j'en ai pas fait du tout, en fait effectivement peut-être un des axes du travail de Thal, c'était la question de l'analogie entre les rapports de genre et les rapports enfants-adultes. Et Thal explique dans le texte que, à la différence des autres rapports sexe-race-classe, le rapport mineur-majeur en fait s'inverse en ce que chaque adulte a été enfant et qu'il y a peut-être une ressource dans le fait qu'on ait toutes et tous été enfants, aussi incroyable que ça puisse paraître pour certains. Thal se pose la question que dans cette inversion de ce rapport, se pose la question de savoir s'il n'y aurait pas une ressource. En fait, sur le parce que ce que Thal montre très bien dans son texte, moi c'est des choses qui me marquent énormément, c'est que finalement l'adulte est très prompt à oublier les souffrances de l'enfance en fait, et que l'adulte reconstruit une enfance fantasmée très commode. Thal emploie le terme de commode qui est très très juste. L'adulte invente une catégorie de l'enfance en fonction de ses besoins. Enfin, c'est l'idée quand même que le dominant reconstruit la catégorie du dominé en fonction de ses propres intérêts et donc Thal se pose la question effectivement de comment conjurer l'oubli, comment faire revenir cette mémoire étouffée, avec plusieurs possibilités et en particulier la possibilité de revenir sur les enfances. Alors Thal cite en exemple une émission de radio sur France Culture où Annie Ernaux effectivement revient sur son texte Mémoire de jeune fille et puis se rend compte que finalement c'était un viol cette première fois et que ça n'a pas été vécu, ça n'a pas été enfin ça a été tu dans ces termes-là et qu'il a fallu un travail de reconstruction active, de remémoration pour voir de quoi il s'agissait. Et du coup, voilà, effectivement, Tal pose la question de dans quelle mesure effectivement il y aurait pas des constitutions de parole comme il y a pu avoir des groupes de parole féministes précédemment pour se rappeler les conditions matérielles de ce qui a été vécu et en disant une chose très très juste, d'y intégrer des enfants. Et ça, c'est absolument formidable, effectivement, qu'il y a quelque chose à partager avec les enfants. Alors non, moi, non, ça me fait très peur. Je suis pas prêt. Voilà, l'enfance, voilà. Donc, pour des raisons X ou Y, quoi. Mais effectivement, c'est pas quelque chose que... Enfin, c'est une des questions que j'aurais voulu lui poser. C'est vraiment une des questions que j'aurais voulu lui poser, mais il faudra faire sans Tal. Mais voilà, du coup, ça n'a pas été l'objet de. On n'en a même pas parlé entre nous, et ça n'a pas été ça n'a même pas été une question entre nous.
Juste pour continuer un peu à répondre, je pense que par exemple, c'est avec cette proposition de Tal qui m'est venue à l'esprit le fait d'écrire ce texte. Donc ça n'a pas été quelque chose de collectif. Mais je trouvais assez forte la proposition de s'inviter soi-même et d'inviter les autres aussi à se pencher sans complaisance sur quelles ont été les conditions de notre enfance. Et du coup, ça a été un travail qui a été assez riche parce que finalement, comment dire ? Ça s'éloigne, le fait de retourner à quelque chose, effectivement, à la première personne, comme on le disait, ça s'éloigne de toute logique de préconception de ce que ça a pu être, même après les discours d'adultes. L'idée, ça a été de me dire, oulala, attention, par exemple, est-ce que tout... Il y a un moment donné, j'en parle un peu dans le texte, mais est-ce que tous les effets de séduction que j'ai voulu produire sur des adultes quand je faisais du patinage, c'était aussi à certains moments de la séduction qui était consentie par moi-même comme étant de la séduction parce que je savais quel effet je pouvais produire aux adultes ou en tout cas que je savais que j'étais un objet d'intérêt en tant que sportif. Et l'idée de regarder ces choses-là sans complaisance, elle m'a paru être une proposition qui était juste du point de vue de mon expérience. Et par contre, oui, nous, on n'a pas fait d'atelier. On a essayé à Lyon de faire un atelier pour les enfants où on lisait un peu des livres où se posait la question de l'inceste, etc. Et qui était là pour un peu commencer à avoir une discussion avec des enfants, à commencer à essayer de défaire ce tabou-là. On a rencontré un groupe à Lyon, par exemple, qui s'appelle le groupe Dorothy, qui fait un travail avec des enfants et qui commence à essayer de rencontrer des enfants, de faire écouter des podcasts. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une rencontre à Fort-Calquier sur la question de l'inceste et où effectivement des ateliers d'écriture ont été menés et ces questions-là ont été posées. C'est quelque chose qui commence à un peu émerger, quoi. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou des réactions, des remarques? Oui. Attends.
c'est juste que le dernier chapitre de La culture de l'inceste, c'est un atelier d'écriture dirigé par Wendy Delorme.
Merci.
C'est une question peut-être plus triviale ou anecdotique, mais je me demandais par curiosité comment ça a été possible de mener une carrière de sportif de haut niveau comme ça en faisant les beaux-arts.
Ça a été compliqué. Non. Non, je rigole. En fait, ça se mariait plutôt bien. J'avais pas tous les cours chiants aux beaux-arts. Et non, mais j'ai fait que 3 ans aussi. J'ai eu ma licence et ensuite j'ai arrêté les études plus parce que ça me plaisait plus de faire les beaux-arts que par euh, par manque de temps. Et ensuite, je suis parti vivre dans un autre pays pour finir ma carrière de patineur, entre guillemets. Du coup, là, où je me suis vraiment consacré pendant ces années-là au patinage.
Oui. J'avais commencé à lire La culture de l'inceste. Et à un moment donné, je me suis arrêtée parce que je sentais que ça exacerbait une rage, en fait, en moi. Et que ça ne me faisait pas du bien. Et en même temps, je trouve ça hyper important de mettre en lumière tout ça. Et notamment, à un moment donné, m'est venu ce chiffre, mais que je crois que j'ai croisé par autre part, comme quoi il y aurait 10% des Français et Françaises qui ont été victimes d'inceste étant enfants. C'est tellement énorme. Et je me dis, ok, c'est tellement énorme, en fait, ça peut juste pas être régulé par une politique qui enferme les personnes responsables. Enfin, c'est juste, les prisons sont déjà pleines, c'est juste pas possible. Et j'ai entendu parler de la justice réparatrice, le fait d'amener les personnes à conscientiser leurs actes en rencontrant des victimes qui soient pas leurs enfants directement, parce que a priori c'est trop violent, enfin ça marche pas en fait. Et du coup, enfin c'est un peu l'idée, comment on sort du cercle vicieux en fait, enfin comment on... Bah c'est, du coup, c'est tellement énorme, c'est tellement collectif. Et voilà. Personnellement, j'ai entrepris une médiation avec mon parent parce qu'il a fait des choses graves. Et je vois qu'en fait, ça grésille. Il y a un truc où c'est de grand-père à père, à enfant. Et du coup, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont une colère qui n'est pas possible à entendre parce que lui-même, il ne s'est pas autorisé à la ressentir. Et donc ça perdure, et à un moment donné je me dis, mais putain, quand bien même je lui veux du bien, est-ce que ça passerait pas par enfermement, histoire qu'il puisse se soigner en fait. Enfin voilà, je suis avec ces questions là et je voulais savoir si vous aviez un éclairage.
Ou alors moi juste je saurais pas te dire, enfin effectivement la culture de l'inceste c'est un livre incroyable. Il y a un ouvrage terrible aussi, c'est Le berceau des dominations de Dorothée Ducy, qui aborde cette question et qui montre comment c'est structurel. Enfin, Dorothée Ducy renverse ce qu'on a tous pensé, il y aurait un tabou de l'inceste qui serait fondateur de l'humanité, la thèse que défend Claude Lévi-Strauss, et que Dorothée Ducy montre, en ayant fait une ethnologie, en ayant fait des entretiens approfondis avec des incesteurs, a montré à quel point effectivement c'est structurant, et a montré effectivement les liens de parenté. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est des choses dont on commence à prendre conscience. Moi, je peux pas te dire sur la question de la justice réparatrice. C'est des choses où effectivement je lis un peu, je me documente, je me pose moi-même des questions, mais je sais vraiment pas te dire, parce qu'effectivement, alors une des façons qu'a la justice pour l'instant de résoudre ça, c'est que ça n'aboutit quasiment jamais, hein, que les plaintes n'aboutissent quasiment jamais. Effectivement, la justice réparatrice est quelque chose qui serait une voie effectivement à creuser. Je peux pas te dire, je suis navré, moi je suis pas absolument pas compétent. Je lis des choses, j'essaie de me renseigner, mais je suis navré. Moi, je pourrais pas être une ressource sur ce coup-là. Juste te dire qu'on est tous avec toi. Voilà.
Juste sur la question de la justice réparatrice, moi, je pense que c'est un angle intéressant à prendre en compte, parce que au-delà de la question de l'inceste, il y a aussi dans le livre un texte de Erika Mayners qui parle de l'enfant à problème, enfin en tout cas qui est une abolitionniste, Erika Mayners américaine, qui plaide pour l'abolition des prisons et qui montre et qui met bien en évidence, mais comme de nombreux textes d'abolitionnistes, que la prison c'est pas le remède, et que la justice transformatrice, j'ai l'impression qu'elle arrive après ce questionnement sur oui, on abolit les prisons, mais comment on règle les problèmes. Et par exemple, j'ai l'impression que Dorothée Ducy en parle bien, et que la culture de l'inceste est assez poignant en ça. L'inceste, c'est un effet de système, c'est jamais une question individuelle. Et la justice transformatrice, la question qu'elle peut-être se poser à cet endroit-là, en tout cas de ce que j'en ai compris, c'est de questionner quel est le contexte d'apparition de ce genre de comportement et en quoi, effectivement, la société hétéropatriarcale dans laquelle on vit, elle va forcément vers ce genre de comportement. Le 10%, en fait, c'est un chiffre qui est très étonnant quand on l'écoute comme ça, mais finalement, tout a l'air d'amener vers ça, la cellule familiale, etc. Et je pense qu'il faut se pencher sur des textes d'abolition de la famille, d'aller voir un peu, par exemple, dans des textes où il y a des sociétés communistes qui se posent la question à un moment donné de oui, les enfants ne vivent pas chez leurs parents, et du coup, qu'est-ce que ça fait ? Par exemple, là, il y a un texte qui s'appelle « Abolir la famille » qui vient de sortir aux éditions La Tempête. Je pense qu'il peut être intéressant en ce sens-là. Et voilà.
Si j'ai le droit de juste rajouter deux petites pistes, je m'autorise. Il y a un podcast aussi qui s'appelle « Ou peut-être une nuit ». Je ne sais pas si... Et le dernier épisode parle pas mal de pistes de qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que du coup, c'est un témoignage. Enfin, la personne qui fait le podcast est elle-même fille de quelqu'un qui incestait. Et dans les pistes qu'elle aborde, c'est des trucs très concrets aussi de comment, en fait, ça veut dire qu'il y en a dans toutes les classes des enfants qui sont victimes de pédocriminalité ou d'inceste. Et elle parle de former le personnel enseignant et aussi de former les enfants. Et il y a des ateliers d'autodéfense pour les enfants qui existent. À Toulouse, il y a une association qui s'appelle Cap d'Agir qui travaille sur ces questions. Enfin, il y en a dans plusieurs villes. Mais du coup, il y a aussi des trucs très concrets de comment on parle ce sujet-là avec les personnes qui encadrent les enfants et avec les enfants. Et déjà, d'en faire ce sujet-là, en fait. Enfin, déjà, là, de pouvoir en parler, c'est un truc de ouf parce que, en fait, il y a quelques années, c'était un non-sujet, quoi. Enfin, pas un sujet à cette échelle. Voilà. Et du coup, je passe la parole.
Merci. C'était simplement pour réagir sur la recommandation de podcast que vous avez faite sur le podcast Ou peut-être une nuit. Il y a aussi le podcast Un podcast à soi qui est produit par Arte où il y a 3 épisodes qui ont été réalisés sur la domination adulte. Et le premier épisode parle justement de l'inceste et de toutes les violences intrafamiliales que subissent les enfants. Le deuxième épisode, il est sur l'école de la domination ou l'école de la violence, je ne sais plus le titre de l'épisode. Et le troisième épisode, il parle justement des cours d'autodéfense qui peuvent être enseignés aux enfants. Et c'est très intéressant aussi. Voilà.
Merci. Moi, c'était pour rebondir aussi sur l'école et les personnels encadrants des enfants, etc. Justement, moi, j'ai été à ESH pendant un an l'année dernière. Du coup, j'étais avec des enfants qui avaient des besoins spécifiques en primaire, soit parce que des handicaps, des troubles, ils avaient besoin qu'il y ait un adulte avec eux. Enfin, j'étais dans une primaire avec des enfants. Et en fait, à un moment, il y avait notamment un enfant qui avait d'autres difficultés, mais où il y a quelque chose qui est remonté, comme quoi il y aurait eu une parole un an auparavant de lui qui laisserait supposer en fait qu'il était victime d'inceste, mais qu'il n'aurait pas dit directement à un adulte, et c'était une parole qui était interceptée entre enfants, quoi. Et en fait, du coup, ça a posé beaucoup de questions, et moi, ça m'a beaucoup choquée aussi, parce que voilà, comment recevoir ça, et quoi en faire. Et du coup, j'en avais parlé, enfin, on avait parlé avec ma collègue, on en avait parlé aux instits, à la directrice, etc. Et en fait, j'avais été aussi très choquée du mur et de la bureaucratie qu'il y a quand il y a une suspicion d'inceste. Et en fait, il faut que l'enfant l'exprime verbalement à un adulte. On ne peut pas lui reposer de questions dessus. Et du coup, ça avait été une parole rapportée. Et on ne pouvait pas, c'était il y a un an, et en fait, il se trouve que à ce moment-là, ça avait été rapporté à l'instit qui était en burn-out, et donc qui ne l'avait pas prise. Et moi, j'avais en tête aussi le truc d'un enfant, il en parle une fois, il n'en reparle pas, il ne va pas venir en parler de lui-même. Et du coup, voilà. Et en fait, la directrice m'avait dit aussi, il faut faire une procédure avec pour lancer la procédure, il faut que l'enfant il ait exprimé à un adulte de lui-même, on ne peut pas lui demander. Et à ce moment-là, il y a une commission qui est montée et il y a une autre commission je ne sais plus comment on appelle ça, l'académie ou je ne sais pas quoi, qui doit valider le fait que ce soit transmis à la police ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a toute une bureaucratie et en fait, j'avais... Enfin, moi, ça m'a encore laissé quelque chose de... Je sais que cet enfant, il est en souffrance pour d'autres choses et en fait, j'étais impuissante par rapport à ça. Et j'ai pas su quoi faire et voilà. Et après, la directrice m'a dit, bon, tu peux, si vraiment c'est alarmant, tu peux toujours appeler le 119 ou je sais pas, mais je connais pas sa famille, je connais pas... Il y a une suspicion comme ça, mais il n'y a pas de protocole ou de démarche, en fait. Voilà.
Par exemple, dans un livre que m'a conseillé le groupe Dorothy, quand je préparais l'atelier pour les enfants, du coup, le groupe Dorothy, comme je disais, c'est un groupe de discussion sur l'inceste entre adultes qui sont des personnes concernées, pour préparer... du coup, la discussion autour de politique d'enfance et en tout cas l'atelier pour les enfants, et elles m'ont proposé de leur lire Le Loup, qui est un court texte de Mylène Chapiron. Et en fait, à la fin de ce texte, je pense que ça ne répond pas à la question, mais c'est pour continuer la discussion autour de ça. Il y a un petit fascicule qui est très bien. Le texte est très bien, il n'est pas cru, et en même temps, on sent bien que ça peut être évocateur pour quelqu'un ou quelqu'une qui a vécu ça. Et à la fin, il y a un court fascicule qui propose des pistes pédagogiques pour pouvoir en discuter avec un enfant de la meilleure des manières. Et par exemple, moi, à Lyon, je me suis retrouvé... Du coup, j'étais avec 3 enfants. Finalement, j'ai décidé de ne pas lire Le Loup parce que j'étais très gêné moi-même par le fait de le faire. Ça met dans des positions qui sont... compliqué. Et en fait, dans la pile de livres, il y avait un autre livre qui, pour le coup, était beaucoup plus évocateur et qui a été très étrange. C'est La princesse sans bouche. Et j'ai commencé à le lire. Et là, il y a une des filles qui suivait l'atelier qui a commencé à me dire que ça lui faisait peur. Et en fait, je comprends largement le sentiment que tu as pu ressentir de oula, là, on se sent très très mal. Et en même temps, il y a quelque chose de l'impossibilité d'agir. Et... Bon, voilà. Mais c'était juste pour évoquer ce genre de situation.
Et c'était 2 albums jeunesse là que tu citais, Laurent ?
Ouais, 2 albums jeunesse.
Qui parlent de ça et qui sont...
Qui parlent du tabou de l'inceste, okay, ouais. D'accord. Alors, le loup, c'est sur la... Enfin, il y a un loup qui est dans la famille et qui, la nuit... se rend dans la chambre de la jeune fille qui s'appelle Miette dans le livre et qui lui donne un secret poison. Et en fait, c'est assez bien parce qu'à la fin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de comment l'enfant se rend capable de l'exprimer lui-même à un adulte et d'aller le dire et de trouver des personnes dont il sait que... elle peut l'entendre ou il peut l'entendre et c'est assez bien fait. La princesse sans bouche, c'était hard, très très hard.
Bon, je sais pas si je vais arriver à formuler une question. Je n'ai pas, absolument pas regardé votre livre. Je suis venue parce que politiser l'enfance, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et la dérive, enfin la dynamique de la discussion là, oriente tout sur l'inceste, alors que la domination, c'est pas que l'inceste du tout, et que l'école dévitalise, et que alors il y a un livre moi que je vous conseille qui est pas du La conspiration des enfants de Camille Louis. Parce que là aussi, il y a de la dévitalisation de l'enfance et qui est autre chose que l'inceste, quoi. Où c'est l'éducation, où c'est le médical, où c'est le social. Ce sont des enfants migrants, des enfants autistes, des enfants roms. Et c'est aussi là que se joue la domination. Et dans l'école, et dans les familles. Et nous, en tant qu'adultes, je ne sais pas si vous avez l'occasion de fréquenter des enfants, mais moi, je sais que c'est très facile de rentrer dans une position de domination de l'enfant. Même si on a tous les discours anarchiques, je sais pas quoi du monde, hein, c'est voilà.
Oui, effectivement, Camille a écrit un texte dans l'ouvrage en fait. Camille a écrit un très très beau texte Je l'ai invitée à intervenir dans mon cours l'année suivante. Camille est intervenue avec Léa Drouet, metteuse en scène et metteuse en scène. Et du coup, tous les deux sont venus intervenir juste de un an après l'intervention de Tal. Camille a écrit un très très beau texte, Déjouer la minorité, retrouver l'enfance, en lien avec tout son travail sur les mineurs non accompagnés. Effectivement, la liste des occasions de domination de l'enfance sont très 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 très, la liste est longue, quoi.
Et aussi c'était un enjeu du livre de se dire qu'effectivement il y avait d'autres effets de domination que l'agression sexuelle par exemple ou l'inceste, et que on a essayé de façon non exhaustive de brosser un ensemble d'endroits où...
Mais c'est forcément lacunaire. Enfin, c'est on a affleuré. Oui, oui.
Il y a une personne qui voulait poser une question, et le temps de la trouver, je dis juste que c'est quand même un des premiers ouvrages du coup qui pose cette question en langue française, et c'est un truc de ouf que ce livre existe, et du coup vous remerciez pour ça.
C'est peut-être une prise de parole qui va être un petit peu naïve, mais c'est pour revenir notamment sur deux prises de parole précédentes. On sait que la justice, je vais parler de justice française là, pour parler de notre contexte actuel, qu'elle, de toute manière, elle privilégie les dominants. Elle permet aussi à beaucoup de dominants ou de personnes... qui sont violentes ou de garder leur statut et de pas être trop embêtées, et c'est d'autant plus facile dans les questions face aux enfants en fait qui vont être plaignants, et notamment dans les contextes d'inceste on va pas trop déranger les personnes dominantes quand même, et c'est là où je dis c'est un petit peu naïf. C'est moi je me dis que je fais pas je ne vais pas attendre de m'appuyer sur la justice par rapport à la vision que j'en ai en tout cas. Et je me dis que si on peut avoir un petit peu d'espoir, que ce soit au niveau de l'école ou que ce soit au niveau de la sphère personnelle, c'est de dire que plus on va faire des événements comme ça, plus on va en parler, plus les victimes, qu'elles soient adultes ou enfants, vont avoir la possibilité d'en parler, plus on va laisser des espaces comme ça, plus on va prendre de la place, et plus les personnes qui sont je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas les bourreaux, vont avoir de moins en moins de place, de moins en moins d'espace et de moins en moins de légitimité à garder leur statut en fait, de personnes violentes. Donc merci pour cet événement aujourd'hui, et je ne doute pas que plus le temps va passer, plus on va pouvoir créer des espaces comme celui-ci ou comme d'autres pour continuer à prendre la parole. Et c'était juste peut-être une petite réponse un peu positive pour mettre du baume au cœur dans ce contexte un peu compliqué où on a chacun aussi nos passifs et on a tous nos bulles personnelles là, qui ressortent un petit peu, qui prennent de la place. Voilà.
Ok, c'est bon, je me sens. Alors, les agressions sexuelles sur enfants, elles sont intéressantes parce qu'elles sont au paroxysme de la violence quelque part. Donc, c'est ce qui montre, c'est pareil que, en fait, par analogie avec la domination des hommes sur les femmes, c'est ce qui montre qu'il y a une domination systémique. Donc, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Et du coup, bon, je prends cet angle-là. Parce que du coup, quand on compare les enfants par rapport aux femmes, les premières personnes victimes d'agressions sexuelles, c'est des enfants en fait, c'est pas des femmes. Et pour 95%, c'est des femmes. Et du coup, en fait, tout ça pour dire que, au niveau de la domination adulte-enfant, on en parle beaucoup. On parle de l'école, on parle de toutes les institutions qui l'entourent, de la famille, etc. Et le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on échoue, en fait, à penser à la place des enfants, tout simplement. Et c'est peut-être un truc que moi, j'aime bien dans les textes de Tal Merx, en fait. C'est que y a quelque chose comme ça où elle cherche à se décaler tout en parlant de la posture d'un adulte, de se décaler et d'aller voir quelles sont les conditions matérielles d'existence, quelque part aussi, de l'enfance. Pourquoi je disais tout ça ? Oui, mais je dis tout ça. En fait, je travaille là-dessus pour mon mémoire. Et du coup, je disais tout ça parce qu'on parle... J'ai l'impression qu'il y a une confusion entre justice réparatrice et transformatrice. C'est deux choses différentes. Donc la réparatrice, c'est quelque chose qui est institutionnalisé. transformatrice, c'est ce qui a été proposé par Elsa Desmarceaux là récemment dans un bouquin qui est sorti. Et j'ai l'impression que, en fait, ce livre, du coup, je l'ai acheté là il y a quelques jours, enfin quand il est sorti le 3 novembre. Et ouais, et il est magnifique, il est vraiment trop beau. Et je trouve qu'il est beau aussi dans le sens où il montre l'échec qu'on partage tous à penser la domination adulte-enfant. Du point de vue, je suis désolée, je sais pas si c'est vexant ce que je viens de dire, je dis pas que c'est un échec votre livre, désolé, c'est pas ce que je voulais dire, mais il montre ça aussi quoi, parce que refaire des entretiens plus tard, enfin il me semble que l'histoire de la mémoire chez Tal, c'est aussi de dire qu'il y a une incapacité à retrouver cette mémoire. C'est qu'on demande à des enfants de retranscrire, par exemple dans le cas d'agression sexuelle, de retranscrire sa mémoire juste après, alors qu'on sait très bien que c'est des moments où on se dissocie, etc. Donc la mémoire de l'après-coup, c'est aussi une espèce de reconstruction dans l'après-coup pour mettre du sens à un peu à la narration de soi, quoi. Mais sans aller trouver des explications chez l'adulte pour l'enfant. Bon, bref, je sais pas si c'était utile tout ce que je viens de dire.
Mais à ce titre, je trouve que, par exemple, lire les textes de Dorothy Allison, c'est un bon exemple d'un témoignage réussi de ce qu'a été un regard sur l'enfance qui n'est pas complaisant. Voilà.
Est-ce qu'il y a des choses qui existent là-dedans ?
Je pense pas. Non, mais je pense qu'il y a des... Il y a des dispositifs de fédération qui sont mis en place. C'est le cas aux États-Unis où il y a, par exemple, où les gens font très très attention et qu'il y a un truc de délation à la fédération qui est très très fort, forte sur la nature des relations entre coach et élève. Mais par exemple, la fédération française, je pense que c'est pas la question. Et par exemple. Il y a eu des témoignages il n'y a pas longtemps, en tout cas dans la Fédération française de patinage, où il y a des gens qui parlaient du fait qu'ils avaient été agressés sexuellement par une des personnes qui était très très proche du président de la Fédération, qui avait un poste assez haut placé. Et ça, on le savait. Et même nous, en tant qu'enfants, on l'a toujours su parce qu'on faisait des blagues là-dessus, mais on se rendait pas compte de la gravité de ça. Mais c'est, je pense pas qu'il y a ça, et je pense pas que le milieu du sport de haut niveau soit un espace propice à questionner ces choses-là. Je pense que ça peut venir de personnes individuellement, mais que ça peut pas venir de l'institution, parce que une logique de fédération, c'est une logique de profit sur le travail vivant. Des gens qui travaillent, donc les enfants, en partie, et que ça peut pas être autre chose que ça.
Oui. Et après, il y a toutes les réflexions pédagogiques. Il y a Irène Pereira qui écrit un texte dans Politiser l'enfance. Enfin, c'est un champ immense de réflexion. Et si tu veux revenir à la librairie, je pourrais te montrer des trucs.
J'arrête sur cette question, mais je pense que la littérature anarchiste, en fait, il y a les anars, ils n'ont pas arrêté de penser un nouveau système, et ça passait beaucoup par travailler la question de ce que c'est que l'école, de ce que ça fait aux enfants. De penser autrement le rapport adulte-enfant. Et là, j'ai pas de texte qui me vient directement à l'esprit, mais il me semble que dans beaucoup de sources anarchistes, il y a des textes très importants là-dessus.
Alors moi, je suis pas équipé en la matière, mais j'ai plein d'étudiantes et d'étudiants, donc je me pose la question effectivement. Il y a pas de texte sur la question de la parentalité. Il y a un texte sur la transparentalité d'Adèle Tincelin, avec qui on a fait une rencontre il y a 15 jours à la librairie La Franchie à Lille, qui fait également un podcast. Et Adèle a dit des choses magnifiques, qu'il ne fallait pas seulement politiser l'enfance, il fallait politiser la grossesse, l'accouchement, l'éducation, l'école. Enfin, écoutez le podcast, parce que cette intervention était formidable. De la librairie La Franchie à Lille. Ce sera mis en ligne début décembre.
Et il me semble que c'est un cadre particulier, mais il y a le texte de Agnord Kutu, Nature Exposition, dont je te laisse parler, vu que c'est toi qui
l'ai traduit. Oui, il y a ce texte, effectivement, de cette formidable artiste Agnord Kutu, où elle est artiste et son fils la voit tout le temps faire des expos. Et un jour, il lui dit « on fait une expo ensemble » et elle l'a pris au mot. Et elle se dit « comment est-ce qu'on peut faire une exposition ensemble en enlevant des rapports de hiérarchie, sachant qu'elle est artiste et que lui est son fils et qu'elle, elle sait faire des expos, qu'il la voit tout le temps faire des expos et que lui, il voulait surtout faire des Legos et présenter un maximum de Legos. » Et le texte est génial parce qu'elle fait vraiment l'effort d'aller chercher des citations chez Rancière et chez Paolo Freire, où elle se pose la question. Évidemment, ça marche pas. Elle le dit à la fin, c'est un échec complet. Enfin, il y a quand même eu une invitation. Les copains sont venus. Il y a eu une exposition. Et que la seule chose où ils n'étaient pas d'accord qu'elle a imposé, c'était d'exposer un champignon qu'il avait ramassé. Mais comme par hasard, il a disparu le jour du vernissage. Enfin, voilà, du coup, le texte est super et il est très, très profond parce qu'elle va vraiment... Elle confronte son expérience à ces textes-là. Et enfin voilà, c'est super.
On va prendre encore une ou deux questions et après on pourra continuer de façon plus informelle. C'est juste pour vous prévenir qu'il va falloir arrêter un moment.
Bonjour, du coup depuis le début on a beaucoup parlé de rapports de domination. Il y a un lien qui n'a pas été fait entre agression incestueuse et certaines autres choses qui ont été évoquées. C'est que, de manière générale, on peut regrouper beaucoup de choses sous le terme de domination, mais comme c'est à ce moment-là qu'ils apprennent beaucoup de choses aussi, les enfants... c'est que tous ces rapports de domination avec l'enfant, ils passent malheureusement par la rupture du consentement, en fait. Et c'est un mot qui m'a surpris de ne pas encore retrouver, mais c'est pas grave. Et du coup, il y avait juste ce petit aparté. Et autre chose que je voulais dire, c'est que du coup, j'ai fait l'animation, je deviens AESH, là. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a aussi quand même quelques indices pour détecter un peu, en quelque sorte, on peut faire des suspicions de cas incestés sur des enfants, et notamment des enfants qu'on ne voit pas forcément souvent et tout, et ce n'est pas forcément évident. Et quelque chose que ça m'a fait questionner immédiatement en y pensant, c'est que, et puis par rapport au sport et les non-dits aussi tout à l'heure, c'est que y a beaucoup d'enfants dans les séjours de vacances et tout, on les envoie et déjà leur dossier, leur fiche sanitaire, ils sont pas complets, elles sont pas complètes parce qu'on sait que si beaucoup d'organismes craignent que s'ils les remplissent entièrement, les enfants soient refusés parce que trop lourd à gérer ou quelque chose comme ça dans l'idée. Mais j'ai quand même vachement envie de préciser que peut-être qu'on a ce rôle-là en tant qu'animateur, que directeur, d'indiquer quand il y a des suspicions d'enfants incestés. Parce qu'il y a vraiment des choses qui ne trompent pas quand on voit des enfants, même très très jeunes, des enfants de 5 à 8 ans qui disent des choses qui sont vraiment flagrantes et qui laissent vraiment à penser ce genre de choses. Voilà, enfin, c'est tout.
Alors sur la question du consentement, effectivement, il se trouve qu'il n'y a pas de texte. Enfin, On s'est pas dit, je me suis pas dit, ça peut être un sujet, enfin je sais que c'est un sujet, mais on s'est pas dit, il faut qu'on le propose à quelqu'un, ou il n'y a pas quelqu'un qu'on a identifié, ou de, parmi les auteurs, autrices qu'on a contactés, personne nous a dit je vais faire quelque chose sur le consentement. Moi j'en parle un peu dans le texte que j'ai écrit, où je reviens sur Claude Lévesque et j'analyse l'œuvre, et je m'appuie en particulier sur un texte d'un auteur, Gwyneth Bison, qui a écrit sur son blog un texte très très beau. Il a été incesté et il a fait les Beaux-Arts et il a été admirateur de l'œuvre de Claude Lévesque, qu'il a rencontré quand il était étudiant, et à un moment il le dit, et ça c'est quelque chose que m'a dit également Laurent Follon, que j'ai contacté pour pouvoir écrire mon article, où en fait les deux disent que enfin, dans leur cas, à eux en tout cas, le consentement de l'enfant est exploité. C'est-à-dire que, Laurent Follon dit, on ne se rend pas suffisamment compte de à quel point c'était une jouissance pour lui en tant que gosse de 12 ans de se dire qu'il faisait un pied de nez à la société en ayant des relations sexuelles avec Claude Lévesque, parce que Claude Lévesque a été là dès sa naissance, proche de sa famille, et il le dit, il l'a toujours dit dans la presse, qu'il a grandi dans un système de valeurs faussées. Et du coup, voilà, c'est les seules fois où, peut-être qu'il y a d'autres moments où il est question du consentement et qui m'échappe pour l'instant, j'en suis désolé, mais effectivement, il y a ces choses-là auxquelles je fais référence dans mon texte, c'est que le pédocriminel exploite, non pas, comme on pourrait le croire, l'incapacité de consentir à l'enfant, mais trompe l'enfant, le manipule pour qu'il consente, voire qu'il demande, en lui mentant. Et que c'est un système de domination à nouveau. Enfin, c'est un indice de la domination. Et voilà. Et pour le reste, effectivement, la question de, on n'a pas, on n'a pas commandé de texte sur la question de l'inceste. Je me rappelle plus si je savais que cet ouvrage Tal m'avait pas dit qu'il travaillait sur cette question, je me rappelle plus dans quelle mesure l'ouvrage devait sortir ou pas. Je me suis pas dit il faut traiter la question parce qu'il y avait l'ouvrage de Dorothée Ducy, de même qu'on n'a pas traité la question de la domination adulte parce que ça a pu être traité par d'autres auteurs. Enfin voilà, pour revenir sur le fait que c'est peut-être un manque, mais c'était aussi par rapport à ce qui existait à côté. Et voilà, ça n'avait pas sens pour nous de recontacter Dorothée Ducy. Voilà.
Est-ce qu'il y a encore une question? Ou est-ce qu'on continue à discuter de façon plus informelle? Ah, vas-y.
Je ne suis pas forcément familière avec le livre, donc je voulais vous demander si vous pouviez nous parler un tout petit peu des aires de jeu. Non, c'est...
Bon, vous avez 5 heures devant vous.
C'est
parfait. Non, enfin, vous pouvez télécharger sur le site de Burnout la première version de Politiser l'enfance, une préanthologie. Et là, j'ai fait un texte, effectivement, sur la question des aires de jeu, où je me pose. Le titre, c'est l'aire de jeu de point un modèle politique, point d'interrogation. Et du coup, je parle d'un certain nombre de moments où. C'est pas pour parler des aires de jeu, mais c'est pour contrer l'idée selon laquelle, enfin l'idée qui relève du primitivisme ou de l'archaïsme, l'idée selon laquelle on regarderait l'enfant et qu'on y verrait la pensée nue ou un état de perfection de l'humanité. Et du coup, je parle d'un certain nombre de personnes qui ont pu faire des aires de jeu dans un cadre artistique. Motivé par le mythe selon lequel, en regardant le jeu des enfants à distance des adultes, on pourrait trouver des règles pour penser en société. Et ça, il se trouve que c'est un artiste qui a eu cette idée-là en 1968, après l'échec de mai 68. Il s'appelle Palle Nielsen. Il a eu l'opportunité de faire une aire de jeu dans un musée, le Moderna Museet à Stockholm. C'était une il expliquait que c'était une exposition pour ceux qui ne jouent pas et une aire de jeu pour ceux qui jouent. Et son intention à l'origine, il avait 23 ans, il était étudiant en école d'art. Et son but, c'était de dire on va regarder le jeu des enfants à distance et on va trouver des règles pour penser la société, parce que le capitalisme ça marche pas, le communisme ça marche pas dans sa version stalinienne, et du coup on pourrait trouver des règles pour repenser la société. Et ça, c'est ce que Claude Lévi-Strauss appelle une illusion archaïque, et ça c'est un signe aussi de la domination adulte, l'idée selon laquelle on va faire peser sur l'idée selon laquelle une activité aussi anodine que le jeu d'un enfant va être prédéterminée pour y voir une source originelle de d'art en ce qui concerne l'esthétique. Et c'est ce que montre Tal aussi dans ses travaux philosophiques, comment effectivement on a pu penser l'enfance comme le lieu de la pensée nue, le surgissement, voilà, c'est de l'enfance comme primitivité.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à Vincent et Laurent d'être venus nous présenter le livre. Merci à toutes et à tous pour vos questions, votre présence, et puis bonne soirée et à bientôt.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.